rencontre spirituelle, aujourd'hui, nous allons célébrer un saint, une sorte de curé d'Ars italien, Saint Antoine Marie Pucci, P-U-2-C-I, Pucci, qui est mort il y a un petit peu plus de 100 ans, en 1892. C'était un servite de Marie, comme Mgr Cimichella, qui a d'ailleurs écrit une brochure au sujet de Saint Antoine Marie Pucci, de l'ordre des servites de Marie. Il était curé à Viareggio. C'est sur la Méditerranée, il y a une très belle plage à cet endroit. C'est une ville de villégiature. Mais à l'époque, ça ne l'était pas, évidemment. Les gens ne se baignaient pas au 19e siècle comme ils se baignent aujourd'hui. Et s'ils avaient à se baigner, je pense, en 1892, l'année de sa mort, ils étaient complètement vêtus de ces étranges costumes de bain qu'on voit dans certaines sur certaines photos. Hein. C'est donc un Italien. On peut se demander pourquoi Jean XXIII a voulu vraiment canoniser cet homme simple, au fond. Un curé, comme j'en ai connu, moi, plusieurs, ces bons curés, généreux, intelligents et dévoués, il a voulu le canoniser dans le cadre du Concile Vatican II. Pourquoi? Parce qu'il existe une espèce de parallèle entre le Concile œcuménique, où prédomine l'aspect pastoral, hein, puis la physionomie de ce petit curé. On a voulu rénover la pastorale, puis lui, il a rénové la pastorale, ce petit curé, d'une certaine façon, en allant jusqu'au bout de ce qu'il avait à faire. C'est un type du vrai pasteur moderne, hein, avec toutes les qualités conformes aux exigences du Concile Vatican II, pour tous ceux qui ont reçu de l'Église cette extraordinaire mission d'aller enseigner et de présider l'Eucharistie et de fonder des paroisses et d'animer les fidèles et de sanctifier les gens, de les consoler. Quelle extraordinaire vocation que celle des prêtres. C'est à mon avis la plus grande, la plus noble et la plus belle de toutes les missions que l'homme peut avoir sur cette terre. Si on examine ce parallèle entre les directives du Concile Vatican II, qui sont relatives là, au mystère paroissial, puis la vie d'apostolat du Saint-Curé, on découvre comment il en a d'abord fait son affaire personnelle, cette primauté de la prière, primauté aussi du sacrifice. Il ne comptait pas, lui. Il était toujours d'un grand dévouement, puis d'une humilité si vraie que c'en est bouleversant. Jean XXIII l'exalte comme le secret de l'efficacité de tout apostolat, hein, cette attitude. Et le saint petit curé, comme on l'appelait, petit curé, bien, il l'a mis en œuvre à la perfection, même dans la recherche du bien social. Il n'oubliait pas de faire que les choses soient justes. Hein. Et puis, en tout cela, on peut dire qu'il devançait l'avenir. De cette grande mission, puis de cette vocation que Saint Antoine Marie Pucci, le petit curé, en italien on dit le curatino, a reçu du ciel, on peut examiner la préparation peut-être un peu, la mise en œuvre, jusqu'où tout cela l'a conduit. On va se faire ça très rapidement. Eustache Pucci, c'était son nom de baptême, Eustache. Est né dans un milieu familial plutôt humble, un milieu foncièrement chrétien. Ses parents, Auguste et Marie-Olive Macchi, habitent un village, vous savez les villages surélevés qu'on voit quand on se promène en Italie ou qu'on voit à la télévision des villages italiens, le village de Poggiole, c'est dans le diocèse de Pistoia, c'est la province de Florence, et c'est là qu'on lui administre le baptême le jour même de sa naissance, le 16 avril 1819. C'est un enfant pieux, travailleur, intelligent, et de conduite irréprochable jusqu'à l'âge de 18 ans. Et c'est alors qu'il décide de se faire servite de Marie. Le jeune Pucci quitte le monde et sous le nom de Fra Antonio Maria, on dit en français Antoine Marie, il reçoit l'habit des servites, puis il se montre très vite un religieux exemplaire. Il est vraiment remarquable. Ça existe encore aujourd'hui, hein? dans les grands séminaires, dans les communautés, rentrent parfois des sujets, on dirait qu'ils sont tout faits déjà dans une espèce d'équilibre spirituel et intellectuel et moral. Il est humble en pensée et en action, ce jeune servite. Puis, il y a le sens de la charité active. Un ami qui est près de mon âge me disait au téléphone combien il a reçu chez lui à Outremont. Beaucoup de gens n'avaient pas de feu, pas d'éclairage. Il leur a donné l'hospitalité dans son magnifique appartement, allant les chercher, tout ça. Cette charité active, pas se contenter de parler. Parce que Antoine-Marie Pucci, le père Pucci, c'est un homme tout jeune, concret déjà, c'est pas un rêveur. Et bientôt, ses confrères, servites, là, sont heureux de l'avoir pendant 24 ans comme prieur du couvent de Viareggio. Et pendant 7 ans comme provincial des services de toute la Toscane. À l'époque où vivait Saint-Antoine-Marie Pucci, soit entre 1819 et 1892, c'est sa naissance et sa mort, ça, mais l'Italie porte encore les traces des guerres napoléoniennes. Ça a été dur, ça, ces guerres de Napoléon Ier. Et c'est pour l'Italie un temps de transformation, de tout son destin politique. C'est la révolution des idées. Il se développe ce qu'on appelle la renaissance italienne des idées. C'est aussi l'époque de l'influence des sectes maçonniques. C'est pas comme aujourd'hui, les francs-maçons dans ce temps-là, c'est pas comme au sud aujourd'hui. C'était vraiment des sectaires et des ennemis de la religion. Ils étaient venus d'au-delà des Alpes, donc de France et des pays du Nord, pour dominer dans les classes dirigeantes comme dans la masse populaire. Puis en outre, il se répandait, comme toujours, une sorte d'incrédulité qui était à la mode, le respect humain aussi. Tout ça, ça rend hostile à la foi bien des gens. Ils sont contre la religion. Ils sont même contre toute vie chrétienne, parce que ça devient dérisoire. Être chaste, ne pas tromper sa femme, quelle idiotie quand on peut avoir plusieurs maîtresses, et puis quand on peut voler un peu, puis tout ça. Puis c'est tellement niais que d'être chrétien, n'est-ce pas? Alors, on voit ça même chez des descendants des vieilles familles chrétiennes. Et en Toscane, vous connaissez ça, la Toscane, peut-être, vous en avez entendu parler encore récemment, des tremblements de terre. Mais il y a les préjugés de l'incapacité pour les enfants de s'approcher de la Sainte Table avant l'âge de 13 et même 15 ans. Imaginons, ils ont fait leur communion tard. Et puis, il y a aussi des relents d'habitude de plus ou moins philosophico-jansénistes, disons. Certaines insinuations de l'autorité laïque de l'État dans les affaires ecclésiastiques, l'État se mêle des choses de l'Église. Par exemple, on interdit aux nouveaux membres des ordres religieux de prononcer leurs vœux avant l'âge de 24 ans. Au fond, c'était pas une mauvaise idée, parce que prononcer des vœux trop jeunes, c'est peut-être pas toujours la bonne idée, quoique pour Sainte-Thérèse l'Enfant Jésus, ça a très bien marché. Alors c'est donc l'État qui décide de ces choses-là. Et ça déplaît à bien des prêtres, et Saint-Antoine-Marie Pucci lui donne l'exemple dans la lutte contre le laïcisme à travers l'éducation des jeunes, puis dans les écoles, dans les familles. Il lutte et fait ce qu'il faut faire, quoi, en bon prêtre. L'endroit que Dieu confie donc au père Pucci à 28 ans, c'est une magnifique plage des bords de la Méditerranée, Viareggio. J'ai eu la chance d'y aller avec Mgr Chimichella, c'est magnifique. Nous nous sommes longuement promenés, nous avons logé d'ailleurs dans le presbytère, et nous avons visité sa chambre où il a vécu si longtemps et où il s'est sanctifié. Et j'ai assisté à la messe, là, à côté de son tombeau où on voit son corps. Viareggio, c'est alors qu'un gros village de pêcheurs. Il y a environ 3000 personnes qui forment la population de cette paroisse, mais qui va être appelée à devenir une ville importante, étant donné la belle plage, évidemment. Il y règne encore la simplicité, l'esprit chrétien des vieux loups de mer, de leur famille. Dans un tel contexte, le petit curé, comme on l'appelle, va y exercer un très grand dévouement, puis une action humble et importante pour faire aimer Dieu. C'est un champ difficile à cultiver, un endroit qui exige un dur labeur, qui est basé sur l'enseignement d'une solide instruction religieuse. Oui, une solide instruction religieuse, il tenait à ça. Puis aussi la lutte contre toutes les formes du mal. Pourquoi pas lutter contre le mal? En proposant le bien. Il le faisait. Alors, nommé curé, donc, de Viareggio en mai 1847, le père Pucci fait d'abord 2 mois de préparation spirituelle, et le 25 juillet, s'élève la première messe paroissiale, puis commente, quoi, la parabole du bon pasteur. Il expose les devoirs du bon pasteur, le vrai pasteur. Puis les devoirs des fidèles aussi, il n'oublie pas. Et pour assurer que son ministère soit fécond, soit utile, il décide de consacrer de lui-même son peuple à Notre-Dame des Douleurs, qui est une dévotion très importante chez les servites. Et c'est un des premiers actes solennels. Issu d'une famille très dévouée à la Sainte Vierge, appelé à l'honorer dans un ordre religieux, les servites de Marie, bien Antoine-Marie Pucci, depuis toujours, a cultivé, comme serviteur de Marie, cette dévotion. Même comme vicaire, il a toujours propagé avec zèle l'amour envers la reine qu'il appelle la reine des martyrs. Maintenant, il sent le besoin de se mettre avec tout le monde, là, sous la protection de la Vierge. La préoccupation majeure du petit curé, mais c'est la nécessité dans l'ordre spirituel d'unir toutes les forces. Puis ici, la première base va devenir, comme je l'ai dit, une éducation, puis une instruction religieuse, là, évidemment proportionnée aux conditions de chacun. Une autre condition d'une action catholique organisée, c'est une profonde piété eucharistique. Le sens de la messe, quoi. Puis, évidemment, toujours une dévotion à l'égard de la Sainte Vierge. Il dit, je ne veux pas que les jeunes catholiques gardent leur insigne dans leur poche. Je veux les voir à la Sainte Table, et pour moi, c'est la meilleure preuve d'une vie chrétienne fervente. Et quant à la dévotion à la Sainte Vierge, c'est le moyen pour lui faire pénétrer cette semence de l'Évangile dans le cœur, pour la faire germer, puis pour qu'elle porte des fruits, par l'action catholique en particulier. Car c'est un précurseur de la grande action catholique. Et c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il obtient, et l'âme du Père Pucci est embrasée de la charité du Christ à tel point qu'il devient le refuge de tous ceux qui ont de la peine. Il apporte la paix entre ceux qui se haïssent, c'est chez ceux qui sont en pleine discorde, et c'est aussi auprès des infirmes qu'il va, puis il ne pense qu'à aider tant matériellement que spirituellement tout le monde. Et pour ça, il s'épargne aucun sacrifice, hein, il remplit jusqu'au bout le don de sa vie. Il n'hésite même pas devant le péril. Il a fait ce qu'ont fait des milliers de prêtres. Et lors de l'épidémie de choléra en 1854-56, il passe infatigablement d'une maison à l'autre. Il dort tout habillé, imaginé sur un lit de fortune près de l'entrée du couvent, toujours prêt à intervenir au moindre appel. Et ce saint-là, il va même jusqu'à recueillir dans ses bras ceux qu'il trouve frappés dans la rue et sur la place, hein, comme Mère Teresa. Et à ceux qui lui conseillent d'avoir soin d'abord sa santé, il dit « Mieux vaut profiter de l'instant présent que Dieu nous prête pour accomplir notre devoir que de se soucier d'une longue vie. » Et encore, il dit « La mort, mais elle sera la bienvenue si elle me surprend sur la brèche. » Saint Antoine-Marie Pucci est donc un curé modèle, vraiment, comme beaucoup d'autres. Et il voit bien qu'il faut la collaboration des laïcs dans son travail. Tout d'abord, dès sa seconde année comme curé, il fonde pour les enfants la congrégation de la doctrine chrétienne, qui va être un jour obligatoire, savez-vous, dans toutes les paroisses d'Italie. Pour les jeunes, il organise à côté de cette congrégation-là la compagnie de Saint-Louis de Gonzague. Saint-Louis de Gonzague, ce jeune jésuite, dont je vais vous parler le 16 février dans un mois. Il établit un règlement dans cette compagnie de Saint-Louis de Gonzague que l'on pourrait considérer comme une espèce de petit traité de façon de former les jeunes à cette époque. Puis peut-être au cours aujourd'hui dans un sens avec des adaptations évidemment. Il y met tout son cœur entre les cas. Il y a des réunions, des fêtes, des manifestations, des divertissements. Il fait comme Saint-Philippe Néri, il a le goût de rire avec eux. Pourtant, il a une figure assez sévère. Et tout ça, bien, c'est destiné à maintenir la foi chez les jeunes en même temps que la joie chrétienne, la foi et la joie. Il veut aussi qu'ils aient une pureté de vie, puis comment? Bien, en étant fidèles à la prière, en recevant fréquemment les sacrements, puis en ayant une dévotion intelligente et sérieuse à la Sainte Vierge. Et évidemment, bien, en fuyant les fréquentations des garnements, comme on dit. Pour les petites filles, les jeunes garçons, avec le concours d'une jeune fille qui va devenir religieuse, ils fondent à Viareggio l'institution des servants de Notre-Dame des Douleurs. Notre-Dame des Douleurs, encore, on va la voir venir. Et dans cette institution rentrent beaucoup de jeunes filles qui deviennent des catéchistes et des éducatrices. Quant aux hommes, le père Pucci institue pour eux ce qu'il appelle la pieuse union de Saint-Joseph. Ça fera plaisir à tous ceux qui aiment l'oratoire et qui aiment le frère André. La pieuse union de Saint-Joseph qu'il va étendre ensuite à tous les fidèles pour maintenir vivante la foi catholique dans les familles. Pour les familles, il compose un règlement de vie et de profonde formation religieuse, morale et sociale. Il insiste toujours là-dessus, conforme aux exigences de l'époque. Enfin, au maire de famille, le Saint-Curé veut donner aussi tout un apport spirituel avec la conviction que l'influence de l'exemple de la femme qui vit au foyer, c'est d'une efficacité primordiale selon lui. C'est plus la mode aujourd'hui du tout, du tout. Mais il le fait, lui, dans son temps. Puis il crée aussi, en 1882, la congrégation des mères chrétiennes. Et voilà comment Saint-Antoine Pucci groupe les jeunes gens, les hommes, les jeunes filles, les mères de famille. Dans sa paroisse, on trouve les quatre associations fondamentales de ce que va devenir l'Action catholique italienne. Tout en lui, malgré des traits austères de sa figure, comme je viens de vous dire, puis le son de sa voix, puis les exigences de sa vie, c'est un homme sévère avec lui-même. Ce qui est curieux, c'est que tout en lui attire ses paroissiens, particulièrement ceux qu'il sent avoir le plus besoin de lui, les petits, les jeunes, avec toute leur exubérance. Et tout cela explique l'affection unanime des paroissiens qui voient en lui l'homme de Dieu. Son cœur s'ouvre tout grand devant les peines et les difficultés individuelles ou familiales de ses paroissiens. Puis il parle sans cesse de Dieu. Il parle du ciel, de l'âme, de l'Église, de la paroisse. Mais sa conversation n'est pas du tout désagréable. Pourquoi? Parce qu'il en parle avec conviction puis intelligence. Jamais de critique non plus, ni de plainte, ni de jugement ou de blâme. Rien comme ça qui sort de sa bouche. Chez lui, la charité couvre tout. Il ne permet pas que l'on attaque les personnes ou les décisions des supérieurs. Et surtout pas le pape, comme c'était la coutume à l'époque. Ou l'Église non plus, il veut pas. On le considère comme le curé d'Ars de l'Italie, à ce moment-là. Il y a une certaine ressemblance, d'ailleurs, entre les qualités du petit curé de Viareggio et celle du Saint-Curé d'Ars. Tous deux ont exercé leur ministère paroissial presque à la même époque dans leurs paroisses respectives, à un moment très difficile pour la religion. À la naissance d'Antoine-Marie Pucci, ou Eustace Pucci, le curé d'Ars exerçait déjà son ministère, mais à la mort du Saint-Curé d'Ars en 1859, jusqu'à la sienne du Saint-Antoine-Marie Pucci en 1892, mais notre saint petit curé établit comme une modernisation de l'œuvre de saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, dans son ministère paroissial. Il modernise tout ça, en l'adaptant aux plus récentes décisions de l'Église sur l'action catholique. Et ce petit curé de Viareggio ressemble aussi au curé d'Ars dans son humilité, sa douceur, sa pauvreté, son zèle, sa grande charité envers tous, plus tendre peut-être envers les pécheurs, qu'il accueille paternellement au confessionnal. Il recherche surtout ceux qui en ont le plus besoin. Lorsque il a affaire à l'un d'eux plus endurci ou récalcitrant, il s'agenouille en gémissant devant la mère des douleurs. Et chose étrange, la grâce triomphe. C'est ce qu'on raconte. Ainsi, tandis que la France et l'Italie portent encore les traces des blessures de la Révolution, des bouleversements de la politique napoléonienne et l'influence de la franc-maçonnerie aussi, qui ont fait leur aveu, bien, on voit ces deux humbles curés qui surgissent. Hein, ce sont des pasteurs de petits troupeaux. Mais combien d'autres curés ont surgi dont on n'a pas gardé toujours le souvenir? Hein? Ces deux hommes, ces deux saints qui ont été canonisés, bien, ils sont vrais et charitables. Et leur sainteté dépasse les frontières de leurs patries respectives, la France et l'Italie. Ils ont fait resplendir la vérité. Et l'amour du Christ, la vérité du Christ, je dirais. Et l'amour du Christ, et c'est tout, c'est tout. Ils n'ont pas cherché autre chose au fond de leur cœur. Le curé de Viareggio ressemble un peu encore au curé d'Ars, même physiquement, de constitution délicate et même malingre. Ce petit curé de Saint-André de Viareggio n'en est pas moins d'un dévouement inlassable, auprès du tabernacle, près de Notre-Dame des Douleurs. Il prend toutes ses décisions, il épuise cette charité ardente qui le porte vers ceux qui, dans leurs épreuves, la pauvreté, les infirmités, puis toutes sortes de misères, ont le plus besoin de secours et de réconfort. Au service de ces gens de la terre et de la mer, beaucoup de marins, comme je vous ai dit, bien, il inaugure, écoutez bien, je vous fais la liste rapidement parce que c'est trop long. Ils font des écoles du soir pour les marins, un hôpital de secours en 1853. Ils fondent, comme j'ai dit, l'Institut des Sœurs Servantes de Notre-Dame des Douleurs pour l'éducation de la jeunesse la même année. Il organise aussi l'aide aux victimes du choléra, là, de 1854 à 56. Puis, ils fondent le premier aérium marin de l'Italie. Qu'est-ce que c'est ça qu'un aérium? C'est un établissement de repos au grand air. Ça n'existait nulle part en Italie, puis il est le premier à le faire. Ils font des œuvres variées de miséricorde, de charité. Des groupements des hommes et des familles sous la protection de Saint-Joseph, comme je vous ai dit, en 1877. Et surtout, une admirable association pour les jeunes ayant pour but l'éducation chrétienne dans toute la vie. Pour tout cela, cet humble petit curé est aimé de son peuple, est estimé par les autorités du lieu, même que le maire de la ville lui demande souvent son avis lorsqu'il s'agit de bienfaisance locale. C'est assez étonnant, hein? Et toutes les associations le comptent parmi leurs membres d'honneur. À sa mort, on lui fait des funérailles solennelles, tout à la charge de la municipalité. En 1952, il est béatifié, puis 10 ans plus tard, il est canonisé. Saint Antoine-Marie Pucci. Son zèle a été grand à défendre l'Église, même le pape et la foi catholique. Et tout d'abord, dans ses homélies et divers écrits, on retrouve sa pensée. Puis, il institue la pieuse union des fils de Saint-Joseph, comme je l'ai dit, pour maintenir ferme la foi catholique dans les familles et dans la société chrétienne. C'est ce qu'on a dit en particulier au moment de sa canonisation. Ça lui donne un statut propre. Et puis, ce saint a mis tout son soin à ce que les premiers inscrits dans son organisation soient d'abord les chefs de famille, puisque évidemment c'est d'eux, croyait-il, que dépendent les cellules de la société et les cellules familiales qui existaient encore à l'époque avec un père, une mère et des enfants. Aujourd'hui, tout ça est bien blessé, hein? C'est pas drôle, c'est pas facile. Et par la suite, il intègre à cette pieuse union les autres classes et paroissiens. C'est le but, c'est de conserver en tous la foi reçue au baptême, puis les aider à être fidèles dans l'accomplissement de leurs devoirs, c'est ce qu'il écrit, hein, et les rendre capables de promouvoir la vie chrétienne dans leur famille. Alors nous allons, comme vous voyez, c'est un ministère de prêtres, de vrais prêtres, comme tant de prêtres chez nous et ailleurs à travers le monde ont mis en pratique. Lui a été canonisé parce qu'il était peut-être un saint et que les autres le sont peut-être moins, je l'ignore, mais moi j'aurais canonisé bien des prêtres que j'ai connus dans mon enfance. C'est quand même une vie qui mérite d'être connue, ce saint humble, ce prêtre, qui nous rappelle, j'imagine, à chacun d'entre nous, des prêtres que nous avons connus. Cessons de penser aux prêtres qui nous ont peut-être un peu déplu. Pensons à tous ceux qui ont été des bons prêtres, des saints prêtres, des prêtres dévoués. Moi, j'en ai connu beaucoup, particulièrement la paroisse Sainte-Madeleine d'Outremont dans les années 30, c'était merveilleux. Bon, je les nomme, l'abbé Barrette, l'abbé Bouchard, des bons prêtres. Viareggio, où ce prêtre dont je vous parle aujourd'hui, Saint-Antoine-Marie Pucci, était curé, ça donne sur la Méditerranée, en Italie, une plage magnifique. Mais Viareggio, c'est donc vraiment une belle ville. Le curé de Saint-André met tout son soin et tout son cœur à s'occuper des gens de la mer. J'ai dit qu'il y avait une plage. Je vous répète, les plages n'étaient pas fréquentées comme elles le sont aujourd'hui. Rien à voir. Les pêcheurs, les gens de la mer. Particulièrement les jeunes, ils s'en occupent. Parce que pour la première fois, ils s'en vont loin de leur famille. Il est présent au départ, comme au retour des bateaux. Il reste pas dans son presbytère. Il s'entretient avec les marins. Il s'intéresse à leurs expériences, à leurs périls. Toujours, ce saint prêtre est là pour accueillir ses mousses, les jeunes. Hein? Il les invite à remercier le Seigneur Jésus et sa mère pour les avoir protégés. Lorsque la mer est plus méchante, là, avec les familles, il se rend sur le rivage pour bénir de loin ceux qui naviguent. Il prie avec eux afin que les vagues se calment, comme dans l'Évangile. C'était pour nous une joie, disent les vieux loups de mer, lorsque, après une longue absence, nous rentrions au port, et de loin nous saluaient nos mères, nos épouses, nos enfants, et surtout notre bon Curatino tout souriant dans sa soutane. Il nous accueillait avec amour et trouvait toujours le moyen de glisser quelques vérités et de nous parler de l'amour de Dieu. Quel beau témoignage de la part d'un humble marin. De nos jours encore, les bons marins de Viareggio se font un devoir d'honorer chaque année le 30 novembre dans l'église servite de Saint-André, voisine du port, leur protecteur, en se remémorant l'affection de cet inoubliable petit curé. Les paroissiens, en s'apercevant que dans tel ou tel foyer on avait cessé de se quereller, disaient « Ah, le petit curé a sûrement dû passer dans cette famille. » Car dès qu'il apprenait quelques discordes, il arrivait en messager de paix. Sa présence, sa parole, calmait immédiatement les colères. Des colères italiennes, c'est quelque chose. Il calmait les disputes. Il lui est même arrivé une nuit d'être victime de son intervention. Et jamais il n'aurait voulu révéler le nom de celui qui l'avait frappé jusqu'au sang. Une autre fois, celui qui avait porté la main sur lui par vengeance est venu implorer son pardon. La divine providence est toujours là pour défendre ses enfants, dit-il. Après avoir échappé à un complot qui avait été monté contre lui par une troupe de gros bras, là, à l'instigation des francs-maçons, semble-t-il, les francs-cap-maçons de l'époque. Il voyait, d'un mauvais œil, tout le bien que ce prêtre faisait sur le plan social, fatiguant un saint curé dans un village, selon certains. Après une telle réflexion, dit avec conviction, « Divine Providence est toujours là pour défendre ses enfants. » Personne n'a eu la lâcheté de manigancer quoi que ce soit contre le curé de Viareggio. Un jour sombre de 1866, on voit le petit curé de Viareggio déchiré d'amertume. Il lit du haut de la chaire, la gorge nouée, puis les yeux voilés de larmes, une protestation publique face à l'autorité civile. Il veut défendre l'Église contre les autorités civiles qui exagèrent. Le commissaire de l'État vient en effet d'expulser les servites et leurs prieurs, curés de la ville, donc lui-même, de leur maison de prière. On a mis la main sur tout ce qui était leur propriété, ou qui servait la communauté conventuelle ou paroissiale, là, ou à la charité même, ce qui servait à la charité. Il n'a pas 50 ans, mais révolté et calme à la fois. Il va, après sa lecture, murmurer son acceptation et sa confiance devant l'image de Notre-Dame des Douleurs. C'est cette image, Notre-Dame des Douleurs, qu'on voit en Italie, puis vous l'avez peut-être vue ici, où elle a sept glaives là, qui rentrent dans son cœur. C'est là qu'il va depuis de longues années déjà, et qu'il ira encore, durant des dizaines d'années, s'agenouiller en silence, se relever plus confiant. Alors, pourquoi cette dévotion dans l'ordre des servites, la Notre-Dame des Douleurs? Et on dit chez eux qu'avec Notre-Dame des Douleurs, et c'est le père Pucci lui-même qui le disait bien souvent, pas de danger d'être accusé de culte de latrie, qui est une faute. C'est pas de l'idolâtrie. C'est un culte d'amour, si on peut dire. C'est pas une dévotion surfaite ni conventionnelle, dit le père Pucci. Celle qui a été commandée par Jésus-Christ au front penché, quand il dit « Voilà votre mère ». Il répond à cette parole de Jésus et il considère Marie qui a tant souffert comme sa mère. Il a voulu, dit le pape Pie XII, que son premier sermon comme curé, comme je vous ai raconté tout à l'heure, soit pour se placer lui-même avec tous ses paroissiens, sous la protection de la mère des douleurs. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit. Il allait répétant, « Mettons-nous entre les mains de la mère des douleurs. » Mes enfants, les choses n'iront pas toujours aussi mal. Si vous êtes capable d'ouvrir votre âme à un rayon de foi, vous aurez aussi ouvert la porte à l'espérance. Quelle habitude de renoncement il doit y avoir, disait ses confrères, et aussi les paroissiens. Quelle habitude de renoncement Antoine Pucci doit avoir pour arriver si vite à cette paix et à cette confiance en pleine contrariété. Bientôt, chaque maison sera ornée de l'image de Notre-Dame aux sept glaives. Chaque mât de bateau de pêche va l'emporter au large et aucune embarcation ne prendra plus la mer sans elle. Hein, oui, le pape aura raison d'appeler Viareggio la ville de l'Addolorata. L'église deviendra le sanctuaire de Notre-Dame des Douleurs, le plus célèbre et le plus fréquenté de toute l'Italie. À l'autel de Notre-Dame, une lampe ardente allumée jour et nuit. Au fait de ce culte, une procession aussi somptueuse que possible va traverser les rues. Et avec des prières et des chants, évidemment, comme les Italiens le font si bien, puis nous le faisions nous aussi autrefois, mais on ne fait plus ça. Ils vont jusqu'au bord des flots, où le peuple, qui est accouru de partout, va implorer la protection de la mère de Dieu sur les pécheurs. Puis on va prendre l'engagement d'être fidèle à la foi. Saint Antoine Pucci a laissé des méditations fort intéressantes, comme je vous en lis une, qui a trait justement à la Sainte Vierge. C'est très beau. Moi, du moins, j'aime ça. Peut-être que je suis trop vieux, je... Tenir entre ses bras le corps froid de son Fils et de son Dieu, quel martyr pour Marie. Ah, Mère très sainte et très douloureuse, comment votre cœur peut-il sans mourir regarder porter dans la nuit des pierres le corps glacé de votre Fils? Un bloc de rocher va vous séparer de lui. Hein, la porte du tombeau, la grosse pierre qu'on va rouler, là. Un bloc de rocher va vous séparer de lui. Qui pourrait le remplacer? Mais dites-moi, Mère de Jésus et la mienne, les larmes de mon repentir peuvent-elles avoir, pour vous, valeur de compassion? Que j'éprouve surtout une profonde contrition de mes péchés, car ils sont cause de la mort de votre Fils bien-aimé et cause du transpercement douloureux de votre cœur. Oui, notre manque d'amour à l'égard de Jésus et de Marie blesse leur cœur. Et c'est là vraiment Saint Antoine Pucci prie dans des formules comme celle-là. Un des témoins de la vie du père Pucci, un des vieux loups de mer des pêcheries de Viareggio, a tenté lors de l'enquête de la béatification, un mot embarrassé, ils avaient de la misère à trouver ces mots, hein. Mais c'était très émouvant. Il voulait faire tout un panégyrique, puis il n'a pas été capable. Il n'a dit qu'une petite phrase très sympathique. Il dit, un vieux marin comme moi, que voulez-vous qu'il raconte? Le bon père Pucci a été chez nous le drapeau de Jésus-Christ. Voilà. Quand on pense à l'importance des drapeaux dans ce temps-là, alors, ce saint petit curé meurt le 12 janvier, c'était l'anniversaire hier, 1892. Une petite fille, toute petite fille, qui s'écrie par trois fois en le voyant, c'est un ange. Et puis le bon peuple répète, c'est un saint qui vient de mourir. Ils l'ont déjà appelé le saint, ce petit curé, de son vivant. Aussi rien de triste pour ses funérailles, je vous l'ai dit. Au contraire, c'est un vrai triomphe et les faveurs divines nombreuses sont venues confirmer, dit-on, cette idée générale de sainteté, voire même par des miracles dus à son intercession. Le saint petit curé a écrit un jour pour des jeunes gens, c'est un extrait du règlement de vie chrétienne pour les jeunes sous la protection de saint Louis de Gonzague. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute au début, là, que je vais faire une émission sur saint Louis de Gonzague, qui est un saint très aimé. Autrefois, un jeune saint jésuite, très jeune, va faire cette émission dans un mois, le 16 février. Donc, ce saint petit curé a écrit un jour pour ces jeunes gens, « Voulez-vous vivre dans la paix de l'âme et la joie du cœur? Voici ce qu'il faut faire. Écoutez bien. Jeunesse que j'aime, mets en pratique le mot du psalmiste. Éloignez-vous du mal et pratiquez le bien. Afin que vous puissiez avancer dans le chemin et vers le but qui s'éclaireront pour vous en ces pages, je vous propose de prendre pour modèle un des jeunes hommes les plus admirés de la terre et du ciel, ce Louis de Gonzague. Imitez-le dans ses qualités qui ont été héroïques. Piété, pureté, charité. La charité concrète, celui de Gonzague en est mort. Alors, je vous le promets, dit Saint-Antoine-Marie Pucci, il dit, parle aux jeunes, là. Alors je vous le promets au nom de Dieu, votre vie sera comblée de beauté et de joie, ici-bas et au-delà. Il dit qu'il ne s'agit, il s'agit de ne pas s'écouter soi-même. Il s'agit de plaire à Dieu puis de fuir la paresse. Fuyez autant que vous le pouvez un amour trop grand de vous-même. Quand vous voulez quelque chose, que ce soit aussi la volonté de Dieu. Ne poursuivez pas un plaisir ou un bonheur qui ne plaît pas à Dieu. On est créé, dit-il, et c'est très beau ça, on est créé pour chercher Dieu, pour le trouver, pour être chez lui un jour et pour toujours. Saint Louis de Gonzague n'avait que cela en tête. À la prière ou à l'étude, au jeu ou à quelque service d'autrui, au travail manuel ou à la rêverie, il voulait uniquement se rendre meilleur. Devenir un saint, un vrai. Ce sont les paroles de saint Antoine-Marie Pucci, adressées à ces jeunes il y a bien longtemps, plus de 100 ans. Je vous lis un autre extrait du règlement de vie chrétienne pour les jeunes, qu'il avait établi sous la protection de saint Louis de Gonzague, un jeune jésuite. Le deuxième point, je vous lis le premier point, là, il ne s'agit pas de s'écouter soi-même. C'est-à-dire, il s'agit de ne pas s'écouter soi-même. Il s'agit de plaire à Dieu, puis de fuir la paresse. Et le deuxième, c'est, il s'agit d'aimer et aider son frère. Il faut aimer tout le monde, dit saint Antoine Pucci. Il faut aimer tout le monde, d'un amour fraternel. Et il ajoute, ce n'est pas un conseil. C'est le commandement du Seigneur. Il faut un amour selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi il s'agit de supporter les autres avec patience, leurs défauts, ou ce que nous croyons leurs défauts. Si on leur doit un avis, un conseil, il faut le faire avec douceur et charité. Il ne faut pas envoyer de lettres anonymes. Il faut parler beaucoup plus de nos frères au Seigneur que parler de Dieu à nos frères. Il faut parler beaucoup plus de nos frères au Seigneur que parler de Dieu à nos frères. Priez pour eux. Il faut les recommander tous dans la prière, dit saint Antoine Pucci. Et si jamais quelqu'un a besoin de nous, il faut non seulement aller à eux, mais courir à eux, tout de suite, pour aider rapidement et aussi bien que possible. Il faut que notre vie soit belle à voir pour les autres, un bel exemple à suivre. Il faut vouloir le bien naturel et surnaturel des autres et faire tout pour l'obtenir avec eux. Ce serait bien lire ça au relais Mont-Royal, peut-être. Respectez tous les autres, quels qu'ils soient, dit saint Antoine Pucci. Oui, respectez vos supérieurs, vos égaux, vos inférieurs même. La charité, l'amitié, cela commence avec le respect. Ah, comme Louis de Gonzague comprenait cela et le faisait, lui, il était tout à tous. Il avait pour tous une amitié qui brillait en lui comme une flamme. Il tâchait de comprendre ceux qui ne pensaient pas comme lui. Son troisième point, c'est, il s'agit de trouver un ami, un vrai. Un bon conseil, ça, hein? Notre nature est ainsi faite, écrit saint Antoine-Marie Pucci. Nous nous attachons facilement à quelqu'un et nous imitons ce que nous voyons faire par celui que nous aimons. En d'autres termes, il nous enseigne à aimer Jésus-Christ, à l'aimer vraiment, pas simplement dire « oui, Jésus, Jésus, Jésus », l'aimer, apprendre à l'aimer. Alors, il ajoute, « il est donc très important dès la jeunesse de chercher et de découvrir un ami véritable, quelqu'un qui craint Dieu, qui est sincère, qui marche droit dans la vie, quelqu'un qui me donne envie d'être pur comme lui, bon comme lui, juste comme lui, courageux comme lui. Attention de ne pas me tromper dans le choix. » Ça s'applique en particulier pour les garçons et les filles comme se prépare au mariage, se trouver vraiment un époux, une épouse, qui soit conforme à tout ce que je viens de lire. Saint Antoine Marie Pucci ajoute, c'est très difficile à trouver un véritable ami. Il y en a beaucoup qui ont de belles paroles, de miroitantes promesses, de l'amitié, de la fidélité plein la bouche. Mais il faut y regarder à deux fois. Si au lieu de rencontrer un ami vrai et bon, je me mets à suivre un cœur léger, vicieux, malheur à moi. Ma pauvre âme, trop faible devant le piège, perdrait d'abord le goût de la vie courageuse et religieuse, de la lutte pour le bien et pour le devoir. Puis ce faux ami me ferait perdre la soumission à mes parents, à mes supérieurs, à tous ceux qui me veulent du bien. Je ne serais bientôt plus qu'un orgueilleux, un égoïste, peut-être même un impudique et un indiscipliné. Cela va si vite de se laisser entraîner et de traîner. Un véritable ami m'entraîne à dire devant ce qui est difficile, c'est possible. Puisque c'est le devoir, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et Dieu m'aime, donc il m'aide. Je regarderai donc Louis de Gonzague. Il vivait à la cour, lui. Louis Gonzague était un noble, il venait d'un... Il faut voir son tombeau à Rome payé par sa famille, c'est somptueux, c'est ridicule même. Mais c'est très beau quand même. Il vivait à la cour, il savait fuir les compagnons flatteurs ou libertins qui n'y manquaient pas. Il voulait des amis qui soient des miroirs de ce qu'on doit être, écrivait Louis de Gonzague. Les miroirs des vrais fils de Dieu, ajoutait Louis de Gonzague. Saint Antoine Pucci conseille aussi aux jeunes de prier toujours. Il leur dit « aspiration vers le Seigneur au cours de la journée, élan vers Dieu, envol vers Dieu pour tout moment. » Dites ce qui suit. « Je vous aime, Seigneur, et j'entends vous aimer toujours, mais à vous de me donner un pareil amour. » Ou bien dites-lui « Je me repens, Seigneur, et je ne vais plus jamais faire le mal. À vous de m'aider. » Vous pouvez lui dire aussi, ce qui est impossible pour moi seul est possible avec vous, Seigneur. Ou encore, pardon, Seigneur, ingrat que je suis, je vous ai cloué à la croix, pardon. Vous pouvez ajouter, c'est vous, mon bonheur et ma force, Seigneur. Votre passion et votre sang répandu me libèrent aujourd'hui du mal et conduisent ma vie vers vous. Oui, quand on pense aux souffrances que Jésus a endurées, on le voit sur le linceul de Turin comme sur nos crucifix, c'est pour mieux comprendre qu'il est ressuscité, qu'il est passé à travers la mort, mais que cette mort, c'est la mort que l'on fait ressentir au cœur des pauvres que l'on n'aide pas, au cœur des gens que l'on blesse, et même à nous-mêmes, par nos propres péchés. On peut dire aussi, dit saint Antoine Pucci, « Je veux vous passer mon éternité à vous adorer, à vous remercier, à vous aimer, que ma vie soit illuminée par votre amour, comme mon éternité sera éblouie par votre gloire. » Et il a déjà ajouté des choses magnifiques que je vous lis en deux secondes sur la brièveté de la vie. Oh, moi qui ai 72 ans cette année, « Comme elle est courte la vie de l'homme ici-bas. » C'est bien vrai, n'est-ce pas, mes bien-aimés, que 20, 30, 60 ans sont bien vite écoulés. Les plus grands génies, ajoute saint Antoine Pucci, les plus remarquables philosophes qui brillent dans l'histoire du monde, se sont lamentés sur la brièveté de la vie, mais ils ont bien tort de gémir ainsi. Oui, ils ont raison de remarquer que la vie est courte, mais ils n'ont pas raison de gémir sur cette vérité. Dites-moi, est-ce qu'on trouve la route trop courte? Est-ce que le pèlerin qui marche trouve la route trop courte vers un beau sanctuaire? J'aime bien cette comparaison. Non, la vie n'est pas trop courte. Elle nous mène vers un grand sanctuaire qui est la rencontre fantastique de la très sainte Trinité. Sommes-nous les premiers appelés à aimer Dieu, à aimer le prochain, à aimer une vie sainte, dit saint Antoine Pucci? Combien sont devenus des saints et des saintes de cette manière. Combien de rois ou princes, justes et bons, à la tête de grandes nations, combien de soldats valeureux, combien d'ouvriers courageux, dans les travaux les plus divers, combien d'hommes et de femmes de tout âge, de toute langue, de toute classe sociale, au milieu de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, sont devenus des saints et des saintes. Comment y ont-ils réussi? En vivant leur vie chrétienne, en profitant de cette vie si brève, pour faire le bien autour d'eux. Voilà un saint prêtre, simple, je dirais rien d'extraordinaire, que la beauté, la profondeur et la vérité, qu'il habitait. Dieu l'habitait, il a rayonné. Saint Antoine Marie Pucci, curé de Viareggio, mort le 12 janvier 1892.